pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je pense qu'à un moment, il faudra aboutir à l'abolition de la propriété privée. Voilà. Nous, on a un peu envie de prendre le parti et de dire que non, il y a des imaginaires de choses jolies en ville, dans les milieux urbains. Il y a peu de gens, en fait, qui vivent en squat et qui trouvent ça génial toute leur vie, quoi. C'est quand même un truc qui est probablement pas une situation généralisable, voilà.
En matière de luttes et de résistances urbaines, bah y a pas que le squat. C'est l'un des constats que l'on peut tirer de ce très beau bouquin intitulé « Tenir la ville, luttes et résistances contre le capitalisme urbain » par le collectif Asphalt aux éditions Les Étacs. Cet ouvrage auquel ont contribué une cinquantaine de personnes propose un panorama non exhaustif de luttes urbaines un peu partout en France et ailleurs. Alors il y est bien sûr question de cabanes et de squats, alors pas de ces faux squats d'artistes hein, et autres tiers-lieux qui collaborent avec les autorités en attendant la bétonisation, on parle ici de vrais squats pour loger en urgence et de squats pour aussi tenir le terrain face aux promoteurs immobiliers. Mais dans Tenir la ville, on parle aussi de résistance jardinière, non pas de ZAD, mais de JAD, jardins à défendre comme les jardins des Vertus d'Aubervilliers, les jardins des Lentillères à Dijon ou les jardins des Vettes à Besançon. Mais au-delà d'occupations jugées illégales, squats, cabanes, cabanons et jardins, luttes et résistances urbaines peuvent aussi recourir à d'autres modalités, comme par exemple l'utilisation du droit. Ou passer par des associations de syndicats d'usagers des lieux ou par la copropriété, sans parler de tout ce qui reste à inventer. Tenir la ville, on en parle aujourd'hui pendant une heure avec Mathieu Adam, l'un des contributeurs à cet ouvrage inspirant qui fait du bien. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
C'est quoi ton métier ?
Moi je suis chercheur, je travaille pour une petite institution assez connue qui s'appelle le CNRS, dans un laboratoire de géo qui s'appelle Environnement, Ville, Société. Je fais de la géographie sociale, c'est quelque chose entre de la sociologie et de la géographie, sur des questions urbaines. On va dire l'essentiel de mon travail porte sur ce qu'on pourrait qualifier d'écologisation du capitalisme urbain ou la manière dont la production actuelle de la ville ingère la question environnementale, soit pour la rejeter et détruire un peu plus l'environnement, soit pour souvent renouveler les manières de faire. J'ai assez longtemps travaillé à l'université de Tours lors de mon doctorat sur les trucs qui étaient à la mode à l'époque, qui étaient les écoquartiers, la ville durable, etc. Donc en gros, faire des lotissements avec des normes environnementales pour produire plus longtemps. Et actuellement, principalement, mes enquêtes portent sur des questions de mobilité. Mobilité individuelle que je regarde notamment sur cette question de est-ce qu'on se démotorise, est-ce qu'on s'électrifie, est-ce qu'on fait plus de vélo, vu du point de vue des politiques publiques et du point de vue des pratiques.
Tenir la ville, luttes et résistances contre le capitalisme urbain, 400 pages d'expériences urbaines très richement illustrées par de belles photos, et il y a même un joli poster à la fin de ce livre que l'on doit au collectif Asphalt.
Le collectif Asphalt, en fait, c'est une signature. C'est pas un collectif qui préexiste à l'ouvrage. On l'a signé à 49, on dirait une cinquantaine de personnes. On a voulu que dans ce collectif, on mette aussi les noms des 18 illustrateurs et illustratrices, donc les 31 personnes qui ont écrit d'une manière ou d'une autre. Et il y a un ours, c'est pas un collectif anonyme, donc on peut savoir à chaque chapitre qui a écrit quoi. L'essentiel des rédacteurs et rédactrices sont en fait des universitaires, donc des personnes qui, de près ou de loin, travaillent à l'université ou dans des institutions de recherche. Pour une bonne partie d'entre elles, comme travailleuses et travailleurs précaires, c'est-à-dire que c'est pas mon cas, moi j'ai la chance d'avoir un poste de permanent, mais beaucoup de précaires dans cet ouvrage, donc qui enchaînent des CDD plus ou moins pourris, plus ou moins courts, plus ou moins longs. Donc ça c'est une partie de ces personnes. La particularité c'est qu'on est sur quand même des universitaires engagés, militants, militantes, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité, loin de là, notamment des chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Donc des personnes qui parlent avec une forme de proximité avec les sujets politiques qui sont abordés, globalement dans, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier d'œcuménisme critique qui associe des personnes avec des positions politiques qui sont assez larges, on va dire plutôt très à gauche, à l'extrême gauche et chez les libertaires. Mais on va retrouver des positions qui sont différentes. Et une autre partie des auteurs et autrices, ce sont des personnes qui ne sont pas des universitaires, mais qui sont des personnes qui sont là parce qu'elles militent sur des sujets sur lesquels, bah, du coup, elles ont des choses à raconter, sur leur propre lutte, leur propre résistance. Soit que ces personnes aient écrit directement des chapitres, donc par exemple le chapitre des Lantillères est écrit par des camarades qui habitent aux Lantillères, le chapitre sur le validisme est écrit par une camarade qui est militante antivalidiste, par exemple, soit qu'ils aient été ou elles étaient intégrées à l'ouvrage sous la forme d'entretiens. Il y a 7 ou 8 entretiens dans l'ouvrage, ce qui permet de donner la parole directement à des personnes qui, par exemple, se saisiraient pas immédiatement de la plume pour écrire.
Panorama non exhaustif d'un certain nombre de luttes, de résistances et d'actions urbaines. On voit que ça passe par pas mal de choses, soit ce qu'on appelle les squats, ou le jardin dans la ville, ou se fédérer dans des syndicats. Mais c'est pas exhaustif, c'est pas une méthode révolutionnaire, ce bouquin.
Ouais, tout à fait. Alors, la question à laquelle on veut pas répondre, c'est que faire. Parce qu'on n'est pas léniniste, d'une part, en tout cas pas moi, et surtout parce que ça marchera pas. L'idée d'avoir des recettes, si je veux avoir une lutte qui prenne dans mon quartier contre tel ou tel projet d'aménagement, il n'y a pas de recette parce qu'en fait, ça va varier en fonction de la composition sociale, en fonction de la colère qu'il peut y avoir, en fonction de l'espoir qu'il peut y avoir, etc. à certains endroits et des cultures politiques préexistantes. Enfin, il y a énormément de facteurs qui font que ce ne serait pas très intéressant d'essayer d'avoir un truc réducteur, genre suivez-nous et faites comme ça et ça va être incroyable. La position qu'on a retenue, hein, donc l'objectif général du livre, c'est de dire la question de l'espace est une question centrale dans nos existences, et cette question devrait, à notre sens, être davantage centrale dans les mouvements sociaux et dans les mobilisations politiques qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour essayer de nourrir cette réflexion-là, on part donc d'une vingtaine d'expériences ou d'une vingtaine de thématiques. Il y a aussi des chapitres qui prennent plusieurs exemples plutôt que juste des récits d'une lutte particulière, en disant que ça, on va faire circuler des manières de faire, des idées, des limites aussi un peu le moment où bah, en fait, ces luttes-là, on va dire si les mouvements révolutionnaires aujourd'hui étaient victorieux, on serait au courant. Et donc, il y a aussi des raisons pour lesquelles ça échoue, qui sont parfois la disproportion entre les moyens des personnes, notamment des intérêts capitalistiques et des intérêts étatiques ou des collectivités territoriales qui sont disproportionnés, qui sont très forts par rapport à ceux des militants militantes. On a sollicité des personnes pour écrire sur des luttes. Là, je veux dire, le lutte, c'est le moment où les choses deviennent explosives, où elles deviennent conflictuelles. Et les résistances, on va dire, c'est les trucs un peu quotidiens dans lesquels s'exprime la conflictualité en ville et qui sont permanentes. C'est-à-dire que c'est pas forcément une lutte quand on se bat contre un propriétaire au sens propre. C'est pas forcément une lutte quand on essaie de négocier un espace vert un peu plus sympa ou une piste cyclable. Mais c'est des résistances quotidiennes qui font que on va essayer de se débrouiller pour avoir un territoire dans lequel on habite qui est un peu plus sympa, un peu plus vivable, un peu plus accessible. Et donc on est allé voir des personnes pour leur demander de parler de différents sujets dans une optique qui n'était pas celle de faire un catalogue publicitaire. Il y a un certain nombre d'ouvrages sur des questions de lutte et de résistance politique qui donnent beaucoup de force à des combats qui n'ont cette force que sur le papier. Et c'est normal, hein, on a toujours une logique de propagande quand on est dans un combat politique. On essaie de présenter ce qu'on fait comme quelque chose de séduisant, quelque chose de potentiellement reproductible, etc. Dans ce livre, il y a plein d'expériences qui sont chouettes, et donc en fait avec l'idée de les faire circuler, mais aussi de dire si on veut qu'elles circulent et si on veut qu'elles puissent servir et nourrir d'autres combats, il faut aussi des fois pointer les limites qu'elles peuvent rencontrer, notamment dans leur fonctionnement interne. Et ça, on le fait en fait finalement de deux manières. Il y a une manière qui est de dire que ces chapitres-là, ils se répondent, en général plutôt indirectement, en disant, bah tiens, le chapitre sur la question du validisme, le chapitre sur la question du féminisme, peut-être qu'il peut m'amener à réfléchir différemment à ce qui se passe, par exemple, dans ma lutte de quartier. Et il y a aussi le moment où, dans les chapitres mêmes, là je prenais l'exemple de rapports sociaux inégalitaires, mais c'est aussi des questions de temporalité qui vont être évoquées, l'épuisement qui peut naître, par exemple. Et voilà, c'était un peu cette idée-là, en disant, bon, en gros, si on veut que les choses circulent, il faut donner à voir des exemples en essayant de les montrer un peu dans leur complexité. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a un ouvrage, c'est des chapitres assez courts et qui est aussi très illustré, parce qu'on disait il y a quelque chose d'intéressant au-delà de faire circuler des expériences, que aussi de faire circuler des imaginaires et de montrer à la fois des personnes qui se mobilisent, des personnes qui luttent, et aussi montrer des lieux. Alors on peut prendre un exemple, hein, il y a les questions de lutte de jardin à certains endroits, c'est des espaces que nous on trouve beaux, et que, par exemple, les mairies trouvent ça absolument dégueulasse parce que c'est mal rangé, c'est du matériau de récup, etc. Et là-dedans, il y a un petit truc intéressant qui est de dire, mais en fait, construire des imaginaires alternatifs, ça participe aussi potentiellement à cette question de la politisation, qui n'est pas uniquement, on va dire, un truc froid, de dire, globalement, regardez, la ville, elle est très inégalitaire. Une fois qu'on a dit qu'il y a des inégalités, ça produit pas forcément ni une prise de conscience du fait que ces inégalités, souvent, elles sont injustes, et c'est l'enjeu de la justice qui va se retrouver au cœur, ni ça produit du mouvement. Il y a plein d'endroits où il y a des inégalités criantes, il y a des gens qui se font rouler sur la gueule parce que leur loyer leur coûte hyper cher, qu'ils sont en galère, que ça les oblige à avoir des travails tout pourris, acceptés pour pouvoir se loger, et à des endroits où ça déclenche rien.
Tenir la ville. Quelles sont les villes qui sont évoquées dans cet ouvrage ?
Ces expériences, elles sont majoritairement françaises. Il y a une expérience belge, c'est Bruxelles, hein. Et il y a des choses qu'on est allé voir ailleurs. Et notamment, il y a un chapitre sur le municipalisme espagnol, et donc ces tentatives de dire un des enjeux pour pouvoir notamment agir sur le logement, etc., c'est de prendre le pouvoir, donc de passer par la voie électorale. Il y a un papier aussi sur la FUCVAM, Fédération de coopératives d'habitat par aide mutuelle uruguayenne, qui est un exemple assez intéressant de travail sur la question de la propriété et de comment on y réfléchit collectivement quand la propriété elle devient collective et qu'on veut pas qu'elle soit juste collective au moment où on construit puis qu'ensuite elle puisse retourner sur le marché privé, et qui est aussi un truc qui donne un imaginaire de la possibilité de faire ça à grande échelle, parce que la FUCVAM, c'est des dizaines de milliers de logements construits, gérés de manière autogestionnaire. Et ça, en fait, c'est un truc intéressant parce que souvent, un des trucs qui est renvoyé à ces alternatives à la propriété, c'est « ouais, ça marche à ton échelle, ouais, avec trois potes, c'est cool ». Et en fait, non, il est possible d'imaginer des choses qui permettent de discuter aussi cette possibilité de, aujourd'hui, les personnes qui investissent en France dans la propriété d'usage, la propriété collective, sont souvent des personnes qui, en réalité, auraient pu accéder à la propriété individuellement par ailleurs, donc ils le font pour des motivations politiques. Et sans doute que le développement de tout ça, c'est de permettre de le rendre plus accessible. Après, on a une ville qui est assez représentée, Marseille, où il est question, dans le papier de Victor Collet, d'immeubles qui s'effondrent, 2018 je crois, à Marseille. On l'évoque aussi dans un chapitre sur le droit. On a fait un entretien avec une avocate du logement et aussi un avocat sur des questions environnementales qui lui parle notamment de Dijon. Bon, cette avocate du logement, elle est avocate à Marseille. On a aussi vu de Marseille un travail de Charles Réveillère sur la question de la rénovation urbaine et de comment des collectifs s'organisent contre ça pour tenir dans le temps. Donc Marseille est assez présente. Le Nord est assez présent aussi. S'il y a des villes qui sont plus représentées que d'autres, ou des espaces qui sont plus représentés que d'autres, c'est parce qu'en fait, on allait chercher des gens qu'on connaissait. Par exemple, l'absence de Paris dans un bouquin pareil est quand même rigolote. La question parisienne, elle est abordée parce qu'elle est prise en charge dans le chapitre par le féminisme d'Emma Pelletier, qui parle beaucoup d'expérience parisienne. Parce que, mine de rien, la lutte à Aubervilliers contre la piscine des Jeux Olympiques sur des jardins, qui est abordée avec des camarades du Jardin des Vertus, la question de l'Île-de-France est présente. Mais en tout cas, disons que c'est un ouvrage qui est peu centré sur Paris. Dans ces proximités, il y a le Nord qui est assez présent, avec notamment les chapitres de Julien Talpin et d'Antonio Delfini sur différents aspects de ce qui peut se passer à Lille, à Roubaix. On parle évidemment de Lyon, le centre du monde, à travers la question de l'espace communal, la Guillotière. On parle de Toulouse à travers l'exemple de la Créa, donc espace communal Guillotière et Créa, c'est des squats où habitent des personnes migrantes, mais aussi qui sont ouverts sur le quartier, qui développent des choses assez intéressantes. Dans les jardins, on parle de l'Est de la France, notamment du projet de la lutte avec les camarades des Vettes, de la lutte à Besançon. C'est une lutte contre un éco-quartier par des jardiniers et jardinières. Il y a les camarades de Dijon qui ont aussi parlé des Lentillères, hein, qui est aussi un endroit où on va cultiver des terres contre un éco-quartier. Donc c'est intéressant, c'est des formes d'écologie un peu qui s'opposent, une écologie capitaliste, une écologie anticapitaliste. Ça parle de Nantes, sur les luttes de la logistique. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un espace qui n'est pas forcément dans l'imaginaire qu'on qualifierait d'urbain à premier temps, mais aujourd'hui, c'est un enjeu, hein, enfin la lutte contre les grandes zones logistiques. Donc il me semble qu'il y a eu un truc du côté d'Orléans, une lutte contre un projet Amazon. On parle de Douarnenez avec les camarades Maxime du collectif Droit à la Ville Douarnenez, où là, on aborde la question du tourisme maritime et de comment, le développement du tourisme se fait au détriment des personnes qui cherchent un logement. On parle de plein d'espaces, et après, il y a des chapitres, tu vois, le chapitre sur le validisme, il prend des exemples à différents endroits. Le chapitre sur la question du racisme environnemental, donc plus précisément de l'anti-tsiganisme, de la communauté voyageuse par William Acker et Leila Mathias, il va prendre différents exemples à différents endroits, y compris d'ailleurs un peu dans le Nord, à LM Ronchin. On a portrait d'un certain nombre d'espaces. C'est quand même plutôt dans des villes relativement grandes. Dijon et Besançon, c'est pas des capitales mondiales, mais on est quand même sur quoi, quand même des trucs aux alentours de 150 000 habitants. On a quand même surtout un truc qui est concentré sur les, on va dire, les 50 plus grandes villes françaises, quoi.
Alors quand il est question de villes plus ou moins grandes, ça fait maintenant des années que la métropole est le truc qui fait fantasmer nombre de politiques. Quelles sont les définitions qu'on pourrait donner au mot métropole ?
Le terme métropole, on le retrouve dans pas mal de discours, et c'est assez intéressant parce qu'on va le retrouver avec des sens différents, dont on va dire un discours médiatique, un discours politique institutionnel et un discours politique radical militant. Le terme, souvent, originalement, désigne la grande ville. Une métropole, c'est une grande ville. Il y a une autre utilisation que nous, on trouve assez intéressante dans ce qu'elle raconte, qui est la métropole comme catégorie philosophique permettant de penser ce que nous, on a appelé un peu le capitalisme urbain, notamment la question de la ville comme prolongation, en fait, du travail, de l'usine, etc., qui est une conceptualisation qui a été proposée par un certain nombre d'auteurs à l'époque de ce qu'on appelait l'autonomie italienne dans les années 70. C'est donc une conceptualisation qui est ensuite ressortie un peu en France, plutôt aussi chez des auteurs-autrices autonomes, mais qu'on voit ressortir un petit peu et qui du coup est plutôt une conceptualisation philosophique politique qui va être utilisée dans des logiques de contestation. Enfin, il y a cette catégorie administrative apparue en 2015 qui est devenue la nouvelle échelle en fait des grosses intercommunalités. Dans une loi créée sur mesure pour Lyon à l'époque par Gérard Collomb et Michel Mercier, Gérard Collomb qui dirigeait la communauté urbaine de Lyon et PS à l'époque, donc un truc créé sur mesure par Gérard Collomb, président de la communauté urbaine d'un côté et Mercier de l'autre côté qui est président du département, où ils se répartissent, Gérard Collomb prend le centre urbain, Mercier récupère le département et on crée cette échelle qui en fait donne aux communautés urbaines d'autres compétences encore plus grandes. Et l'inspiration, notamment politique, qui est très liée à ce moment où les grandes villes, notamment, mais aussi les petits territoires, en fait, il y a une pensée permanente de la compétition. C'est vraiment le modèle néolibéral. Tous les individus sont en compétition entre eux. Bah, c'est exactement pareil pour les villes. Et donc, on a en fait des élus qui, par adhésion ou parce qu'ils ont en fait aucune imagination et que c'est le discours dominant, en fait, reprennent ce truc de la compétition. Donc, Tours va être en compétition contre les autres villes de l'axe ligérien et puis les autres villes de la même taille pour attirer des capitaux économiques, des investisseurs et des populations, si possible, avec un pouvoir d'achat suffisant. Et donc on a cette logique-là qui était un peu, il faut être concurrentiel, il faut être concurrentiel à l'échelle internationale. Et donc on va s'inspirer notamment du modèle allemand, c'est-à-dire schématiquement une grosse métropole qui est liée à une région, et c'est aussi le moment où on reformule les régions juste derrière. Et donc c'est devenu une échelle administrative. Bon, cette échelle administrative, elle est un petit peu risible, parce qu'en fait, à la base, il y avait une limite à 500 000 habitants, parce qu'en fait, les élus lyonnais, ils ont pensé ça à leur échelle, et puis si ça s'adapte à 2-3 autres villes, mais de toute façon, comme ils sont au centre du monde, bah eux, ils sont en compétition contre Zurich, Amsterdam, Barcelone. C'est le discours, en tout cas. Globalement, ils avaient pensé à cette échelle-là, puis après, bah, tous les gros élus de France qui ont un peu une envie, notamment de carrière, éventuellement, à l'échelle ministérielle, par exemple, bah, ont voulu leur truc, quoi. Donc on a abaissé progressivement la limite pour que Tours, Dijon, Le Havre soient des métropoles.
Tout ça sur fond d'une indécente flambée des prix de l'immobilier. En France, en environ 3 décennies, les prix d'achat en ville ont en moyenne quasiment triplé. Et cette explosion des prix du foncier se répercute évidemment sur les loyers, qui absorbent une grande partie des revenus des ménages qui louent leur logement. Autre chiffre, dans la France de 2020, près de 300 000 personnes étaient sans domicile fixe, 2 fois plus qu'en 2012. En 2019, la Fondation Abbé Pierre recensait près de 200 000 sans-abri. L'explosion des prix de l'immobilier y est évidemment pour quelque chose.
Entre 1995 et 2000, le prix de vente d'un mètre carré a été multiplié par 2,8. Donc en euros constants, on est passé en gros de 1000 à 2800 euros du mètre carré. Donc ça, c'est sur l'échelle française. On est à 4,3 à Paris. Voilà, ça, c'est entre 1995 et 2020. Et en même temps, ça s'est accompagné de toute cette politique d'accession à la propriété, hein, de rendre les ménages propriétaires individuels de leur logement et si possible d'un logement individuel, où on a eu une hausse, donc entre 1995 et 2020, toujours les mêmes bornes de temps, on est passé de 42 à 58% de ménages propriétaires de leur logement. Donc il y a eu vraiment cet accompagnement-là qui a été fait. Et donc, cette multiplication par 3 du prix d'achat du mètre carré de logement, je peux sans aucun problème affirmer que nos salaires n'ont pas été en moyenne multipliés par 3 euros constants, loin de là.
Cette hausse, ça se répercute aussi sur les loyers.
L'effet de la hausse du prix de l'immobilier et du prix à l'achat sur les loyers, elle se fait de différentes manières qui font qu'elle va être parfois un peu minorée et parfois produire des effets de grosse différenciation territoriale. Ce que je viens de dire là, une multiplication de 3 en moyenne en France, ça peut être très variable. Dans certaines villes où il y a eu notamment des processus qui se continuaient de ce qu'on appelait la désindustrialisation, les prix ont stagné, sont restés assez bas. Mais globalement, on a des endroits qui sont restés relativement bas et d'autres qui ont augmenté davantage. Je disais Paris, par exemple, on a augmenté davantage. En gros, les grandes villes, souvent, ont augmenté plus que les villes moyennes. Ça produit différents effets une fois qu'on les applique à l'achat, mais ça a aussi des effets d'inégalité territoriale à la location. Donc le premier effet, c'est une répercussion assez directe. Acheter un logement pour le mettre en location, puisque c'est beaucoup ça, hein, en France, ça masque des inégalités. Je dis 58% des ménages sont propriétaires de leur logement, mais c'est un tout petit pourcentage qui est en réalité propriétaire ensuite du parc locatif, qui lui permet de dégager des revenus, hein, schématiquement. C'est à peu près comme tirer de la plus-value de ses salariés. On tire de la plus-value du travail des autres en leur louant un bien locatif. Et donc forcément, si on achète plus cher, on va répercuter tout ça sur le prix à la location pour maintenir un profit maximal. Ça a produit aussi des moments où il y a eu un accompagnement, notamment de l'industrie du BTP, et ça se passe beaucoup aux alentours de la crise financière de 2008, par des politiques de défiscalisation centrées sur le locatif, avec cette croyance les propriétaires, on leur crache dessus, mais ils créent du logement. C'est exactement la même connerie que d'expliquer les milliardaires, ils créent de l'emploi, ou les patrons, ils créent de l'emploi. Techniquement, c'est à l'inverse qu'il faudrait réfléchir, mais en tout cas, c'est quand même un discours qui marche. En 2008 notamment, il y a eu des politiques de défiscalisation qui ont été hyper importantes. À un moment, on a eu des défiscalisations jusqu'à 25%, ça veut dire 25% de l'achat du bien est financé par l'État, c'est-à-dire que la collectivité a acheté à des gens qui avaient les moyens d'investir dans du marché locatif 25% de leur bien, parfois un peu moins. Ça, il y avait une petite mesure sociale qui était, mais les loyers vont être un peu cadenassés. Les loyers sont plus encadrés hein, que l'achat, notamment aujourd'hui, on voit même apparaître des histoires de plafonnement. Et donc, ça a eu un peu maintenu et ça a fait que globalement, les prix à l'achat ont augmenté parfois plus vite que les prix à la location. Et enfin, ça a eu ces effets très inégalitaires d'un point de vue territorial, c'est que ça change aussi les marchés qui sont attractifs pour les détenteurs du capital immobilier, parce que le logement n'est pas le seul bien qui existe en ville, hein, notamment un des gros endroits où il y a de l'investissement, qui là n'est pas un investissement de ménage, mais plus un investissement institutionnel, de banque, de fonds de pension, etc. C'est les immeubles de bureaux. Beaucoup l'économie, elle se fait là-dessus. Mais sur la question du logement, on a plutôt les ménages riches qui investissent dans l'immobilier. Ça fait que certains endroits où les prix sont restés bas et où donc la location est proportionnellement en fait restée relativement élevée sont devenus des espaces plus valorisés et ça allait un peu moins en gros dans des endroits où le prix à l'achat a beaucoup augmenté. Pour spéculer, ça fonctionne hyper bien. En plus, on est sur des biens qui baissent peu, donc la prise de risque est minimale. On attend quelques années, on revend. C'est une des manières de faire de l'argent. L'autre manière, c'est de louer. Donc on a pu voir apparaître certaines villes qui sont devenues en fait des espaces d'investissement parce que l'achat est très peu cher, mais le loyer se maintient. Je prends un exemple qui est un endroit que je connais bien, c'est la différentielle entre Lyon et Saint-Etienne. C'est une heure de train, ce qui sépare les deux villes. On a un tarif à l'achat qui est à peu près un rapport de 1 à 5. Donc on est à peu près aux alentours de 1 000 € du mètre carré du côté de Saint-Etienne, qui fait partie de ces villes qui ont perdu pas mal d'habitants sur des phénomènes qu'on a parfois qualifiés de désindustrialisation. En réalité, c'est quand même surtout le fait que l'industrie s'est barrée dans d'autres pays moins chers. Et donc, en fait, on n'a pas réellement désindustrialisé, si on y réfléchit bien, mais ce n'est pas le sujet de la conversation. À Saint-Étienne, on est à peu près à 1 000 € du mètre carré. Et à Lyon, on est à peu près à 5 000, donc on a ce rapport de 1 à 5. Mais par contre, les loyers, on est plutôt sur un rapport de 1 à 2. Évidemment, si on veut faire un max de thunes grâce à la location, il est plutôt intéressant d'investir à Saint-Etienne parce que la location va rapporter, elle va notamment rapporter immédiatement. Mais par contre, comme le marché stagne, à moyen terme, on va faire des calculs intelligents pour voir s'il est plus intéressant de spéculer sur un marché lyonnais qui prend ses 10-15% par an et tirer un revenu quand même complémentaire de la location, ou s'il est plus intéressant en gros de banquer sur de la location sans potentiellement que ça augmente. Donc on a des moments où c'est un peu décorrélé, ces deux choses-là. Voilà.
Le loyer, ou en tout cas le logement, est un poste qui absorbe une grosse partie des revenus.
quand il y a des mouvements sociaux, là, ces deux dernières décennies, il est question de la défense des services publics, de l'hôpital, de la retraite. Il y a aussi des nouvelles choses qui se passent autour des bassines ou de bures ou de voilà, des luttes écologiques. Mais cette question-là du logement cher me semble relativement peu brandie. Je crois que ça a émergé beaucoup avec les gilets jaunes. Eux, on en parlait. Il semble qu'on lutte relativement peu là-dessus, alors que c'est fondamental, quoi. C'est le toit qu'on devrait avoir au-dessus de nos têtes.
Ouais, bien sûr, c'est un truc qui est assez fascinant, effectivement. Bon, schématiquement, il y a le logement et il y a la question des transports, notamment. C'est les deux premiers postes de dépenses des ménages. Aujourd'hui, le transport et le logement. Plus on est pauvre, plus c'est le logement qui prend de la place. Et inversement, mais on est à peu près sur 20%. Et qui sont des dépenses qui ont cru. Et notamment, en particulier, la question du logement, elle n'occupait pas une aussi grosse proportion il y a quelques décennies. Alors parfois on voit arriver la question du pouvoir d'achat, mais sur la question des salaires, qui est un peu décorrélée de la manière dont on le dépense. Petite tentative d'explication. Il y en a une qui est que le travail est effectivement ce qui a occupé la centralité, y compris théorique, des mouvements critiques. Hein, c'est le rapport capital-travail, notamment dans le marxisme et en gros tous les courants de gauche qui lui ont succédé. Je ne suis pas en train de dire que le sujet devrait être l'espace et pas le travail, parce qu'en réalité ces deux choses-là sont intimement liées. Le slogan écologiste qui disait « je vais au travail pour payer ma voiture, je paye ma voiture pour aller travailler », on tourne en rond et on pourrait faire exactement la même chose avec le logement, etc. Donc il ne faut pas décorréler ces questions-là, mais en attendant, voilà, le travail a pris beaucoup, beaucoup de place et forcément ça laisse un peu moins de place à des imaginaires un peu différents, alors que il y a des choses intéressantes aussi dans cette question, il me semble, de l'espace, que c'est aussi un espace de projection, c'est l'espace de l'utopie, c'est à la fois il y a la ville actuelle, capitaliste, hyper inégalitaire, fragmentée, hiérarchisée, et en même temps c'est aussi des espaces de projection, de trucs désirables, ah ouais, j'avais envie d'habiter dans tel ou tel endroit. Donc le travail écrase un petit peu ça. Et après, dans les débats politico-médiatiques, la question du logement, qui est une question infiniment plus complexe que celle de l'accès à la propriété, elle a été totalement écrasée par ces politiques d'accession à la propriété, notamment motivées par le fait de faire vivre l'industrie du BTP et rendre les ménages un peu plus sages, un peu moins revendicatifs, une fois que, en fait, souvent accéder à la propriété en France, c'est accéder à des dettes, hein, dans un premier temps.
Hein. Ça incite pas beaucoup à participer à des mouvements sociaux et à se faire sauter des journées de salaire, parce qu'on a des traites du pavillon ou du logement à payer.
Ouais, c'est compliqué.
Stratégie Sarkozy, hein. Enfin, il voulait que tous les Français, beaucoup de Français deviennent propriétaires, mais c'était aussi pour museler les gens.
Tous propriétaires, c'est un vieux slogan, c'est arrivé notamment avec Giscard, ça a été repris par Sarkozy. Ça revient à Catal, hein, qui a récemment plus ou moins redit la même chose. Dans « oui, je suis fier qu'on ait une France de propriété individuelle ». Il y a une stratégie de rendre les ménages propriétaires assumée, de manière effectivement assez crue. Par ailleurs, quand même, la démonstration selon laquelle ça rendrait mécaniquement individualiste ou le fait d'avoir un logement partagé et collectivisé rendrait mécaniquement collectiviste est probablement à revoir. C'est probablement moins direct que ça. C'est pas parce qu'on est propriétaire de son logement qu'on devient immédiatement quelqu'un qui ne pense qu'à son nombril. Cette discussion-là, elle prend beaucoup de place dans l'espace public, plus que le logement, même s'il revient actuellement, par exemple, la ville, c'est pas que le logement.
La dernière fois que j'entendais parler de logement de manière politique, c'est dans les grandes années de droit au logement, du DAL, ça remonte à 95, et c'était certains types de logements pour certains types de populations, etc. Là, il n'était pas question de l'intégralité de la population française, et puis finalement, j'ai l'impression que le sujet s'est évacué ou a été évacué.
Le constat qu'on fait, nous, au départ, et qui d'ailleurs motive, en fait, l'ouvrage, c'est que malgré sa centralité dans nos existences, parce que la question de l'espace, c'est avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi les rythmes qui vont avec. On parlait des transports, c'est aussi du rythme, c'est des thunes, mais c'est aussi du rythme, c'est des agendas un peu obligés par cette organisation-là. C'est l'accès ou pas à des espaces agréables. Il y a quand même là-dessus, pareil, des inégalités qui ne touchent pas seulement à la question du logement, mais à la question de choses aussi importantes que le confort, le bien-être, et notamment aujourd'hui dans une période de dérèglement climatique. Par exemple, on sait que les quartiers les plus pauvres sont souvent les moins végétalisés, alors que la végétalisation, elle protège un peu, elle fait de l'ombre, elle rafraîchit, etc. Et donc, globalement, il y a moins de parcs, hein, souvent, dans les espaces pauvres. Du coup, on a quand même cette question qui est assez complexe, peu présente dans les moments électoraux aussi. C'est pas un sujet très débattu. On pourrait s'amuser, je pense, à aller regarder, par exemple, dans les débats présidentiels télévisés, si la question du logement ou la question des mobilités ou la question de l'espace public, toutes questions qui pourraient avoir trait à l'organisation de l'espace sont présentes, mais en fait, c'est extrêmement marginal.
Pourtant, ça explose régulièrement. J'en reviens aux Gilets jaunes en 2018. Il y a mille choses qui ont alimenté ce mouvement populaire. Je m'en fais aussi l'idée d'un mouvement qui est pas mal partie des zones périurbaines, quitte à verser dans une forme de caricature. J'imagine par exemple un couple de personnes au SMIC qui se sont acheté le petit pav, voilà, ultra dépendants de leur bagnole pour aller se faire exploiter, et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce que les traites du pavillon, l'essence dans la bagnole...
Le mouvement des gilets jaunes, ça n'est pas que ça, mais c'est en partie la mise en crise de cette promesse de l'accession à la propriété par la maison individuelle dans des espaces, plus on est pauvre, dans des espaces plus lointains. Effectivement, des personnes qui se mettent le couteau sous la gorge parce qu'elles ont des traites à payer.
Donc politiquement, ce truc-là, il explose à la gueule de la société.
Il explose à ce moment-là sans être vraiment nommé de cette manière-là. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, il démarre sur la question du prix de l'essence, cette double chose qu'on discute à l'instant, de le revenu d'un côté, la dépendance à l'automobile de l'autre, et donc aussi là où l'on habite, évidemment. Il raconte les mutations aussi à cet endroit-là, en fait, un peu des mondes ouvriers, qui sont devenus beaucoup des mondes de profession, en fait, de la route. Les hommes ouvriers sont beaucoup devenus des ouvriers de la logistique qui vont travailler dans des grands centres logistiques ou qui vont devenir chauffeurs. Et les femmes, elles travaillent beaucoup dans ce qu'on appelle maintenant les métiers du care, rendre service à des personnes âgées, handicapées, etc. Et ce qui nécessite de se déplacer beaucoup. Donc forcément, des populations qui sont derrière extrêmement sensibles à ça, plus encore si tu es à la limite. Et puis avec ça, il y avait aussi un truc de la réussite. C'est-à-dire que le moment, l'accession à la propriété, ça demeure un truc... Ok, il a été construit politiquement, qui est un rêve partagé. Je me sécurise mes vieux jours, c'est l'objet de plein de stratégies individuelles, de stratégies aussi familiales quand il y a des questions d'héritage. Et même dans des milieux peu aisés, des fois ça devient des questions. Et donc, il y a ce truc-là. Il démarre donc forcément de manière explosive sur le prix de l'essence. Il y a un deuxième truc qui est intéressant sur le plan de l'espace, dont on n'a pas parlé, mais un des trucs qui est important aussi sur l'espace comme objet, c'est l'espace comme endroit d'organisation. Et on a besoin d'espace pour contester, réfléchir, s'organiser, etc. Et là, le rond-point est devenu un espace d'organisation qui était un peu un espace revendicatif parce que c'est aussi l'endroit où les gens tournent autour, donc on peut mettre une banderole, etc. Mais qui était aussi des espaces d'organisation.
D'organisation et de socialisation. Il a beaucoup été dit que des gilets jaunes ont réinventé des liens, des rencontres qui n'avaient jusque-là plus lieu dans leurs existences. Et puisqu'on parle aussi de bétonisation, avant de poursuivre avec Mathieu, on va faire un détour vers ce petit jardin que tout le monde connaît.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce. Préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs.
On parle de jade, jardins à défendre, comme les jardins des vertus d'Aubervilliers ou les jardins des Lentillères à Dijon. Les Lentillères, étonnante expérience démarrée en 2010 d'un quartier autogéré de 8 hectares en pleine ville. Il y a aussi les jardins des Vêtes à Besançon, où depuis 2006 se déroule une lutte jardinière contre un projet immobilier menaçant 34 hectares de terres cultivables. Des luttes et résistances évoquées dans « Tenir la ville », le beau bouquin dont on parle aujourd'hui avec Mathieu, l'un de ses rédacteurs. Et on va maintenant revenir sur un mot déjà prononcé plusieurs fois avec Mathieu, le mot « imaginaire ».« Décolonisons nos imaginaires », disait un slogan tagué sur un mur. L'imaginaire précédera-t-il l'utopie ? L'utopie qui cesse parfois d'en être une quand elle devient réalité. Et même si de façon concrète, ou dans l'imaginaire, la figure du squat urbain concerne de ci de là certaines réalités militantes, on pourrait se demander si des imaginaires de la lutte, et notamment de lutte radicalement écologiste et donc anticapitaliste, si des imaginaires de la lutte n'auraient pas déserté les villes pour investir des campagnes. Dans les années 70, il y a eu Plogoff, le Larzac, SOS Loire Vivante, et plus récemment Notre-Dame-des-Landes, Bure ou les Écureuils de la 69. Comme si finalement lutter en ville se cantonnait à faire de grandes manifs syndicales contre la casse de la société, et comme si l'authentique écologie politique ne se passait qu'au dehors des villes, vers des campagnes au relent parfois un peu mythologiques ou fantasmées par certains et certaines. Même si dans des campagnes il se passe des choses on ne peut plus concrètes, hein, comme par exemple le 25 mars 2023, les 5000 grenades policières tirées sur les 30 000 manifestants de Sainte-Soline. Or, l'essentiel de la population française ne vit pas dans les campagnes, mais dans les villes. Alors, tenir la ville ou tenir l'urbain, Mathieu ?
Déjà, on pourrait s'amuser à définir ce qu'est l'urbain, c'est pas exactement la ville. Nous, ce qui nous intéresse dans le terme urbain, alors, bien sûr, le livre s'appelle « Tenir la ville », à un moment, il faut faire un titre un peu efficace.
Et... quelque chose de très martial. Tenir le terrain, ça fait militaire.
Et c'est tenir le terrain, c'est aussi tenir les murs, tenir la rue, enfin, il y a tout un truc qui, à la fois, peut-être a une dimension un peu martiale, alors c'est toujours compliqué les titres, parce qu'il faut trouver un truc qui claque, et il y a un truc qui est en sous-texte. C'est aussi « Nous ne partirons pas », quoi. Mais globalement, l'urbain, c'est plus compliqué que la ville. L'urbain, l'urbanisation, en gros, c'est la concentration, notamment de ce qu'on appelle le capital fixe. Le capital fixe, c'est les espaces de production, historiquement l'usine, mais aujourd'hui quand même majoritairement le bureau, etc., l'endroit où on va produire de la richesse. L'immobilier peut être vu en partie là-dessus. Et les espaces de reproduction, reproduction de la force de travail. Le logement, l'hôpital, les lieux de formation, etc. Et la particularité de l'urbanisation, c'est que tu concentres ça parce que ça permet de faire un maximum de plus-value. Sachant que l'urbanisation, elle est préalable à la question capitaliste. Hein. Là, on parle plutôt d'une urbanisation capitaliste qui a commencé il y a 2 siècles, mais qui a fait exploser l'urbanisation. Je veux dire, littéralement, il y avait 3% des gens à peu près, enfin en 1800, qui habitaient en ville. Maintenant, c'est plus de 50%, et on continue de croître. Pour dire que l'urbanisation, elle, elle est complexe et que la question de l'urbain, elle est particulière. Et notamment, par exemple, on pourrait dire que Notre-Dame-des-Landes est en grande partie une lutte urbaine. L'enjeu, c'est d'avoir un aéroport pour desservir des...
On balance le mot métropole.
Des métropoles. En tout cas, c'est un équipement métropolitain, cet aéroport, et qui joue un autre enjeu, qui est la fermeture de l'ancien aéroport, qui, elle, était censée libérer quantité de terrain pour construire du PAV, pour faire du logement, éventuellement des zones logistiques, etc. Donc là, à nouveau, un truc très urbain. Mais effectivement, les mobilisations des 15 dernières années, qui ont remis en fait la question spatiale aussi au cœur des engagements politiques, elles se sont faites, en tout cas sur des grandes infrastructures. Elles se sont peu faites sur des projets urbains, même si on en voit quelques-unes, etc. On a fait un bouquin qui liste des expériences, donc en fait, il se passe des choses. Mais c'est pas ce qui crée l'imaginaire général, effectivement, c'est notamment ces grands combats écologistes sur les grandes infrastructures. Donc ça, c'est une des choses. Et après, il y a aussi une tendance, aujourd'hui, un renouveau, on va dire, de ce que nous on qualifiera de discours anti-urbain, qui dépasse largement et qui n'est pas forcément directement lié à ces grandes luttes d'ailleurs, qui va développer un propos qui pourrait être assez raccord, même totalement raccord avec celui qu'on peut avoir, qui est de dire l'urbanisation actuelle, elle est dégueulasse et plutôt mortifère, tire la conclusion de ça que, bah, en fait, il faut partir et qu'il y aurait un ailleurs désirable, etc. Le problème de cet ailleurs, c'est qu'il n'existe pas, en fait. Et que ça relève en partie du fantasme, d'un côté, en partie quand même d'un truc un peu réac, de dire, en gros, la ville, c'est la société, c'est la perversion, une sorte d'idéalisation, de fétichisation d'une forme de campagne ou de petite ville, ce serait des endroits plus sains, y compris moralement. Et ça, c'est quand même assez présent. Et on le voit dans des écrits venant d'universitaires, venant de militants, militantes écologistes. C'est un discours qui regagne de la puissance. C'est un discours qui a existé, hein, je veux dire, les revues écologistes des années 70, et les trucs qu'on appelait à l'époque le retour à la Terre, etc. On avait déjà des discours qu'aujourd'hui on qualifierait de réactionnaires. Mais ça fait un retour, aujourd'hui, assez marqué. Donc forcément, ça a une influence. La deuxième chose, c'est que on a évoqué tout à l'heure cette explosion du prix du foncier et la question de la propriété, c'est pas uniquement l'idéal du petit propriétaire, c'est bah, parfois quand même effectivement se foutre un toit sur la tronche, etc. Et ça permet des choses et c'est parfois aussi la possibilité de s'organiser. C'est plus simple de s'organiser quand on peut être propriétaire d'un lieu, quand on a de la pérennité, parce que par exemple le squat, c'est un mode historique d'organisation, donc à la fois pour contester, mais souvent aussi simplement pour se loger en fait. C'est une forme d'opposition radicale, frontale à la propriété privée, etc. Mais comme ça passe par l'illégalisme, ça introduit deux choses. D'abord la répression possible, et secondairement l'instabilité. Comme on peut potentiellement être viré à tout moment ou presque, bah, ça complexifie plein de trucs, et notamment la question des projections dans l'avenir. Et ça, on le voit pas mal, notamment aujourd'hui, il y a des populations qui sont largement forcées à squatter, c'est les populations de réfugiés, qui se font pourchasser des frontières jusqu'au centre des villes, qui du coup ont des grosses galères pour, par exemple, avoir un revenu, et donc, de fait, avoir la possibilité de louer. Aujourd'hui, si t'as pas de papier et t'as pas de revenu, louer un appartement, c'est quand même quelque chose qui relève pas loin de l'impossible, quoi. Et donc ces personnes, elles sont contraintes de squatter, mais ça contribue en fait à cette espèce d'incertitude qui dure. Et l'incertitude qui dure, c'est hyper violent, y compris psychologiquement, etc. Il y a peu de gens en fait qui vivent en squat et qui trouvent ça génial toute leur vie, quoi. C'est quand même un truc qui est probablement pas une situation généralisable. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'à un moment, il faudra aboutir à l'abolition de la propriété privée. Voilà. Face à ça, il y a ce truc de dire bon, on va se rendre propriétaire, parfois pas seul, en inventant des choses. Hein. Attaquer la propriété, c'est pas uniquement occuper illégalement, ça peut être, on en parle dans l'ouvrage, construire notamment des questions de propriété d'usage. Donc ils disent, en fait, ce qui compte, c'est l'usage des lieux, en reprenant la division du droit assez classique, hein, usus, fructus, abusus. Et le droit d'abus, c'est complètement con, ça c'est le droit d'abîmer son truc, de le casser, etc. Le fructus, c'est le droit de louer, c'est le droit d'en tirer des profits. Mais c'est l'usus qui devrait gérer le truc, c'est parce qu'on habite un endroit qu'on est légitime à y être. Et donc il y a des réflexions qui se font là-dessus pour dire, bon, on va dépasser la simple propriété collective. La propriété collective, elle n'est pas forcément moins individualiste qu'une autre, hein. Il y a plein de trucs qui sont des propriétés collectives, puis après, quand les gens ils se barrent, le logement il retourne sur le marché, ça fait de la plus-value, etc., importante. Ils disent, en fait, il y a un truc intéressant à réfléchir sur le droit d'usage. Donc, il y a des choses là-dessus qui sont des critiques de ça. Et une partie des projets de réalisation de devenir, pour le coup, simplement, tu te mets avec 3-4 potes et tu vas acheter un lieu en commun. Et c'est aussi plus facile dans des milieux, disons, loin des centres urbains, où les prix de l'immobilier sont beaucoup plus bas. Et donc parfois, en fait, cet imaginaire que le futur, il est à l'extérieur des villes, il se nourrit aussi d'une rationalisation a posteriori d'une possibilité matérielle. Et c'est quand même parfois plus confortable de se dire, en fait, c'était mon désir le plus profond, que de se dire, j'y suis allé parce que j'étais contraint économiquement. Et ouais, nous, on a un peu envie de prendre le parti et de dire que non, il y a des imaginaires de choses jolies en ville, dans les milieux urbains, pas forcément des urbains très denses, ça peut être des petites communes, périurbains aussi peut parfois avoir des choses intéressantes. En tout cas, on prend un peu ce truc à rebours, en particulier le moment où ces écrits-là sont un peu réac, quoi.
C'est très surprenant. Comment se fait-il qu'il y ait des militants, des militantes, parfois écologistes, qui s'opposent à la réalisation d'éco-quartiers ? Réchauffement climatique, c'est la fin du monde. On comprend qu'il faut des jardins partagés et des immeubles végétalisés. Et pourquoi, en fait, ça suscite des broncas ?
Là, on a deux exemples, donc à Dijon et à Besançon, de ces contestations-là. En fait, ça fait des années que je discute notamment avec les camarades du Jardin des Vettes. C'est un des exemples qui est pris dans le livre à Besançon. En fait, on s'est plus ou moins rencontrés sur le fait que moi, j'ai à un moment travaillé sur ces écoquartiers en produisant un discours critique. Et en fait, mon discours et celui d'un autre collègue qui s'appelle François Valjas, production écrite, les intéressait parce que précisément ça permettait d'agripper cette espèce de savonnette qu'est l'écoquartier, qui effectivement, il faudrait quand même être sacrément pas sympa pour être contre un projet qui est écologique, socialement mixte, participatif, inclusif, éventuellement innovant, etc., etc. Et donc, c'est un endroit assez intéressant pour attraper aussi cette espèce de discours, mais qui n'est pas que du discours, qui est une manière de penser le monde dans des termes toujours extrêmement positivistes, etc., qui, quand même, mine de rien, complexifie la critique. C'est pas hyper évident de mobiliser en disant bah, on va se battre contre le projet d'écoquartier qu'ils sont en train de construire. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce lexique de, on va dire, des professionnels de la ville, donc, que ce soit des promoteurs immobiliers, des élus, des fonctionnaires territoriaux, il est plein d'écologie, quoi. Il est plein de poumons verts, de mini-forêts, de ce qu'on veut, quoi. Et souvent, quand même, ces écoquartiers, une de leurs caractéristiques, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc, on va avoir des nouvelles normes écologiques. On va quand même construire des bâtiments qui sont mieux isolés, donc vont consommer moins d'énergie. On va faire un peu mieux que ce qu'on faisait dans les 70, quoi. On va pouvoir avoir un peu de pleine terre. Ça évite que dès qu'il y a un peu de pluie, tout déborde, et puis ça fait de l'infiltration à la parcelle. Donc en fait, il se passe un peu des trucs. Mais en vrai, la logique profonde de ce truc-là, c'est de relégitimer une production de bâtiments neufs qui change pas grand-chose et qui continue notamment, et c'est ce qui se passe à Dijon et à Besançon, à dire bon bah les dernières terres un peu cultivables, etc., on va en faire de la ressource foncière pour l'immobilier. La terre prend beaucoup de valeur quand on vient y construire un immeuble. Et donc, en fait, on a ces projets-là qui, effectivement, si on s'arrête au discours, sont quand même géniaux, quoi. Qui en réalité change pas grand chose. En fait, c'est plus possible aujourd'hui de faire un projet immobilier si on n'a pas écrit qu'il est durable dessus. Je veux dire, c'est devenu la norme. Et comme je le disais précédemment, ça change un peu des choses. C'est bien hein, que les réglementations thermiques elles évoluent. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais globalement, bah, en fait, tout le monde s'est adapté. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul projet un peu d'ampleur qui n'est pas un éco-quartier. Et donc, en réalité, on est sur de la promotion immobilière ultra classique qui s'adresse à certaines populations. En général, des populations relativement aisées, en tout cas les personnes qui peuvent se permettre d'acheter dans le neuf. Et donc, forcément, il y a une contestation de ce truc-là. C'est en gros c'est ce qu'on pourrait qualifier d'écologie capitaliste. Il y a une écologie capitaliste. C'est pas forcément un oxymore, et que précisément, c'est parce que c'est pas un oxymore qu'il faut analyser ce qui est fait et potentiellement le combattre. On a en fait un truc frontal qui est de dire, bah, en gros, on va opposer une écologie de classe ou une écologie populaire à ces projets-là. Et dire, on veut s'organiser différemment. On va pas vouloir qu'il y ait de construction. On va dire, bah, peut-être qu'on peut être un peu autre chose que des logements individuels ou du logement collectif. C'est plutôt du logement collectif, mais plutôt qu'autre chose que des bâtiments les uns à côté des autres. Je trouve que c'est un endroit intéressant, ces luttes-là, parce que précisément, elles mettent en crise en fait, cette espèce d'écologie capitaliste. Elles la dévoilent un peu en disant, en fait, si tu grattes sous le vernis, les modèles ne changent pas. Et ça produit des choses qui sont assez intéressantes. Et jolies. C'est très très beau, les jardins des Vêtes à Besançon, par exemple.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour à la Chaussée-Dantin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée-Dantin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée-Dantin.
Parlons à présent d'une supposée écologie non radicale et non révolutionnaire, celle qui joue le jeu de la démocratie participative et incarnée par des partis comme Europe Écologie Les Verts, parti qui a remporté 7 villes de plus de 100 000 habitants. Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Tours, Annecy et Grenoble sont censées être vertes. Alors certes, hein, on pourrait toujours se dire qu'avoir une municipalité qui se dit écolo, même si c'est une écologie compatible avec l'économie de marché, c'est moins pire que d'avoir une municipalité sous couleur de la droite officielle, qui bien sûr inclut le Parti Socialiste, qui est un parti de droite. Mais ces expériences de gestion municipale un peu verte, sauce greenwashing, mais alors pas rouge du tout, s'avèrent parfois décevantes, du moins pour qui en attendait quelque chose. De vilains esprits parlent non pas de verre à moitié plein, mais plutôt de vide à moitié vert.
C'est toujours pareil, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ouais, il y a beaucoup de déceptions, je pense. Pas chez toute la population, je pense qu'il y a quand même des populations qui sont très heureuses, hein. Des politiques qui sont menées par ces élus verts, à Tours, à Grenoble, à Lyon aussi, hein. Et en plus à Lyon, il y a à la fois la mairie et l'intercommunalité, donc la métropole, qui est dirigée par des verts. Il y a de la déception chez les personnes qui ont cru qu'ils avaient élu une gauche écologiste et combative. D'une part, donc, il y a des personnes qui sont satisfaites, je veux dire, Éric Piolle a été réélu, en fait il fait bien le job, que faisaient bien les socialistes avant, et puis la droite avant, parce qu'en fait il y a une continuité là-dedans. C'est pareil, ça ne change pas, je pense pas qu'il faille être relativiste, etc. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Ce qui est certain, c'est que les élus issus de Europe Écologie, ou la gauche écologiste, peut-être on pourrait dire ça, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils présentent comme une gauche écologiste, n'ont en général pas été élus sur des promesses de remise en cause radicale de la gestion néolibérale des villes dans lesquelles ils et elles sont arrivés. Souvent, en plus, et c'est en particulier valable à Tours, l'appareil du Parti Socialiste est encore largement en place. La mise en œuvre du néolibéralisme en ville, elle a été beaucoup, beaucoup l'œuvre de grand-mères du Parti Socialiste, parfois avant les élus de droite. Pas parce que les élus de droite étaient des camarades, mais parce que les élus de droite étaient souvent pas forcément très libéraux sur tous les aspects. Les élus Europe Écologie Les Verts, ils se présentent au même endroit politiquement que l'ex-PS, parfois même plus à droite. Il y a des collègues, notamment le Jean Rivière, qui fait des choses que moi je ne maîtrise pas du tout. Il fait de la géographie électorale, il fait des grosses statistiques, etc. à partir des votes, et qui montre en fait la grande proximité entre le vote écologiste et un vote Modem, un vote En Marche, etc. Parfois même en fait techniquement dans des bureaux de vote inscrits plus à droite précédemment que ceux pour qui votait le PS. Il y a des endroits où nationalement on va voter En Marche, puis localement on va voter Vert, etc. Et donc on a des élus qui débarquent souvent pas pour faire des politiques radicales. Le cas de Piolle est assez intéressant parce que, bon, bah ok, il fait un peu moins de publicité, un peu plus de pistes cyclables, et c'est très bien, je veux dire, d'un point de vue pratico-pratique, le développement du vélo à Grenoble, ça rend la ville extrêmement agréable, extrêmement facile d'y circuler, etc. Bon, à côté de ça, la gestion des services publics, la fermeture de certains services publics, etc., elle bouge pas beaucoup. Les grandes promesses de transparence et d'horizontalité politique, bien souvent, se sont évanouies. C'est logique, hein, on promet la délégation et l'horizontalité au moment où on veut être élu, et puis ensuite on a le pouvoir, ce serait quand même couillon de le partager. Et on a aussi des élus qui, d'une part, sont écrasés par les institutions, c'est-à-dire que la forme institutionnelle fait que, quand bien même avec des convictions, en fait on va quand même se faire fortement contraindre par les possibilités matérielles, ce qui entretient le fait que parfois des nouveaux élus ils se barrent, qui se rendent compte qu'en fait, elles eux aussi se sont trompées. Et puis une autre partie, un peu plus nombreuse, rationalise en disant « Non, mais en fait, on fait le maximum, c'est vraiment incroyable. » Et donc reste en place et fait une carrière politique. Souvent, parfois, nos critiques politiques, elles portent sur des individus, mais en fait, on pourrait des fois s'en passer. En tout cas, c'est plutôt ce qu'ils incarnent qui est intéressant que leur personnalité. Quand on change, voilà, on a changé d'élu, ça n'a pas changé grand-chose, etc. Et d'autre part, il y a quand même aussi un affaiblissement total de la culture politique et de l'imagination des élus. Aujourd'hui, les partis politiques, et notamment il y a un collègue qui s'appelle Raphaël Cosse, il a travaillé donc sur cet objet mort qui est le Parti Socialiste, et le titre de sa thèse c'est « Les socialistes croient-ils en leurs idées ?». Je pense qu'on pourrait décalquer ça en partie à Europe Écologie sans trop de problèmes. Alors il faudrait refaire l'enquête, hein, par pure rigueur scientifique, mais et en fait il montre en gros comment le Parti Socialiste est progressivement devenu un truc totalement vide idéologiquement. C'est pas seulement parce que les gens ont vieilli, sont droitisés, c'est en partie parce que en fait il y a des personnes qui s'engagent dans cette manière de faire de la politique, en fait parce que c'est des carrières, on peut faire une carrière d'élu, quoi, c'est rémunérateur, etc. C'est pas forcément très stable, c'est pas forcément des endroits très confortables à vivre parce que il y a toujours un type pour te mettre un couteau dans le dos, mais en tout cas c'est aussi une des motivations à l'engagement politique, notamment des personnes qui font des carrières politiques électorales longues, sur des postes un peu élevé, et aussi parce qu'en fait, les partis se sont totalement défaits de leur capacité de formation politique. et notamment le PS, former ses élus, quoi. Politiquement, organiser des sessions de formation. Le budget formation du PS, il existe encore, quoi. Mais il ne fait plus de formation politique. Il fait de la formation au media training, on dit, au métier d'élu, à la communication, au marketing, à l'utilisation de Twitter, tout un tas de choses qui sont de la com. Et derrière, quand on prend des personnes qui sont venues, parfois avec des idéaux sympathiques, hein, c'est pas le problème, et qu'on leur dit, mais en fait, on va te faire une formation sur comment bien apparaître quand tu sers une pince au marché, et pas sur des considérations économiques de base, qui te permettront de pas répéter la connerie que c'est les patrons qui créent de l'emploi, il y a aussi une fragilisation qui est là. Et donc, derrière, ces élus-là, ils ont une capacité à remettre en cause, on va dire, un certain nombre de dogmes qui est faible, parce qu'ils n'ont pas forcément en fait, d'imagination différente à y opposer. Et puis, ils font la com' qui pense être attendue d'eux. À Lyon, c'était assez intéressant. Par exemple, les élections de 2020, à la mairie, on a un maire qui a fait pas mal campagne sur la sécurité. Donc un maire vert qui dit « avec moi, il y aura plus de caméras, il y aura plus de policiers, etc. » Parce que c'est aussi ce qu'est l'électorat, mine de rien, qui vote pour les verts à temps.
Mais des caméras alimentées par cellules photovoltaïques et recyclables.
Je l'espère bien, mais en tout cas, c'est même plus un sujet, le fait que les caméras et la police, c'est chouette. Et du coup, il faut rassurer le bourgeois, quoi. Et de l'autre côté, le Bruno Bernard, qui est devenu président de la métropole, qui a fait une campagne quand même. Ce type gérait une boîte, et là il est arrivé à la retraite, il faut bien qu'il s'occupe. Il est chef d'entreprise et il fait une campagne qui dit « Je suis chef d'entreprise, donc je saurais gérer une métropole parce que ça se gère de la même manière. » Et voilà, c'est ça aussi le personnel politique. Je m'étends énormément sur cette question qui n'est pas du tout centrale, on ne la traite pas du tout dans le bouquin. Mais il y a aussi le fait que les collectivités territoriales, ce ne sont pas que les élus. C'est aussi tout le personnel qui travaille pour elles et quand même beaucoup aujourd'hui tout ce qui est sous-traité et qui du coup fait qu'il y a des consultants qui viennent répandre des discours complètement vides que les élus vont reprendre parce que parfois ils ont de toute façon pas trop le choix, il faut que ça aille vite et c'est la boîte avec laquelle on bosse habituellement etc. Mais il y a chez les fonctionnaires territoriaux, mais chez aussi des architectes, chez des urbanistes, etc., des gens qui finalement ont aussi beaucoup de pouvoir, mine de rien. Par exemple, les élus, ils valsent. Mais les fonctionnaires territoriaux, souvent, ils font des carrières relativement longues au sein de l'institution. Ils sont eux qui détiennent le savoir, qui parfois valident des projets. Enfin, c'est l'élu qui valide, mais qui vont leur présenter, etc. Et chez ces personnes, je pense qu'il y a davantage à les chercher en termes d'alliance que chez les élus. Notamment parce qu'une partie de ce que nous, on a appelé la classe d'encadrement de ces architectes, ces urbanistes, ces fonctionnaires territoriaux, n'est pas du tout alignée politiquement sur les élus pour lesquels ils travaillent. À un moment, c'est aussi des gens qui gagnent leur croûte, comme beaucoup de gens. Et là, il y a une vraie adresse à leur faire, qui est de dire à un moment, en fait, désolidarisez-vous des intérêts, en gros, de l'alliance État-capitalisme, etc. Arrêtez de bosser pour des promoteurs, venez bosser pour des habitants. Il y a des cas intéressants de ce point de vue-là. Et à l'intérieur, y compris de ces structures publiques, en fait, il y a des gens intéressants. Donc, en réalité, mon propos, c'est pas tant de dire il n'y a rien à faire, etc. Les expériences, effectivement, de prise de pouvoir municipale, elles ont l'air d'être des échecs en France, en Espagne, un peu partout. Mais par contre, là, il y a des alliés, et là, il y a des choses intéressantes à faire.
Tenir la ville par le collectif Asphalte. Il y a ce sous-titre, hein, Lutte et résistance contre le capitalisme urbain, n'est pas un livre de recettes pour réussir une révolution verte, mais plutôt une base de données pour s'inspirer d'expériences diverses et variées sur plein de territoires. Il y a des choses à mélanger, à inventer, à refaire à partir de ça, à créer aussi. Peut-être qu'il y a encore plein de trucs à inventer, en fait.
Il y a évidemment plein de choses à inventer. Tu disais au début, c'est pas un inventaire exhaustif, c'est pas un travail encyclopédique. Et nous, on espère bien que, oui, le sujet, il va prendre de l'ampleur et que avec notre truc, il va devenir obsolète hyper vite. On voulait faire cette expérience de transmettre des choses à ce moment-là. La forme ouvrage, c'est un truc qui marche pour faire ça. Longue vie à celles et ceux qui se battent pour qu'on ait des villes, des espaces périurbains, des territoires, des logements plus sympathiques, quoi.
Tenir la ville est aussi un objet, il est très beau, très abondamment illustré, un poster dedans, trop chouette, c'est plein d'intelligence et puis en plus c'est joli.
On est content de l'objet, le fait d'avoir travaillé, quand je disais tout à l'heure il y a des imaginaires à faire circuler, le fait de faire des choses jolies, entre guillemets ça coûte pas plus cher et c'est une attention importante, c'est aussi un choix, voilà, c'est aussi une petite maison d'édition, hein, les Etacs, hein. On allait chez un petit éditeur parce que c'était facile de travailler sur ce plan pour avoir une discussion là-dessus, dire bah, nous on a envie de faire ça un peu comme ça et rendre possible ce genre d'ouvrage. On a fait aussi un travail de trouver de l'argent pour que cet ouvrage soit à vendre à 20€ pour un bouquin de 400 pages. Alors 20€ c'est pas rien et du coup il va être aussi disponible gratuitement en ligne. Il y a aussi ce truc d'essayer de faire quelque chose d'au maximum accessible. Mais ouais, c'est un bel objet, ouais, on est content.
Tenir la ville est un super bouquin, seulement 20 balles pour 400 pages. conversation avec Mathieu, qu'on remercie, à réécouter sur notre site polémiquecestlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.